7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. En France, dans la perspective du nouveau baccalauréat, les lycéens de seconde cette année ne choisissent plus de filière. Vous savez, la traditionnelle filière littéraire, scientifique, économique, L, S, ES, c'est terminé, du moins pour ceux qui passeront un bac général. À la place, un tronc commun et des choix de spécialité à choisir dans les semaines qui viennent pour entrer en classe de première. Alors la fin des filières, est-ce que c'est la fin de la hiérarchie des matières avec la toute puissance des maths? La France est l'un des rares pays au monde où, par exemple, un jeune qui aimerait devenir médecin, mais qui n'est pas sûr non plus de vouloir devenir médecin, en tout cas, il doit le décider à l'âge de 15 ans en choisissant la filière scientifique. À l'heure de la sélection à l'entrée de l'université, sur quels critères d'option vont être choisis les bacheliers? Une chose est sûre pour le moment, tout cela rend l'orientation complexe et anxiogène pour les familles. Et les enseignants, qu'en disent-ils? Quelles sont leurs inquiétudes? Alors qu'un malaise généralisé transpire depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux dans cette profession, comme en écho aux gilets jaunes, le mouvement des stylos rouges se sent déconsidéré, mal payé, mal préparé aussi pour cette nouvelle réforme du bac avec, entre autres, la fin des filières. On va discuter de tout cela avec nos invités. Valérie Sipahi-Malani, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES. Le SNES, c'est le principal syndicat d'enseignants du secondaire, donc collège, lycée. Franck Collard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association des professeurs d'histoire géographie. Sylvie Amissi va nous rejoindre. Elle a un problème de RER. Elle arrivera dans le studio dans quelques minutes. Elle est présidente de l'association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. Donc, ce sont les fameux conseillers d'orientation dans les lycées. Pas assez nombreux d'ailleurs pour conseiller les lycéens. Et puis en fin d'émission, comme chaque vendredi, on aura la chronique de Marie-Rose Moreau. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comment bien se séparer de son bébé?
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
On parle éducation, c'est sûr, réforme du baccalauréat, fin des filières dans les lycées. Valérie Sipahi-Malani, parlons peut-être d'abord de l'actualité immédiate. En marge du mouvement des gilets jaunes est apparu depuis plusieurs semaines le mouvement des stylos rouges pour les professeurs mécontents qui ont d'ailleurs largement, là aussi, tout comme les gilets jaunes, doublé les syndicats d'une certaine manière. Il y a eu un mouvement de grève hier. Quel est le malaise des profs aujourd'hui ?
Les profs se sentent un peu méprisés par leur ministre et puis mal aimés par leurs élèves et par les familles. Méprisés par le ministre, on l'a vu aussi avec le mouvement Pas de Vague au mois d'octobre-novembre. C'est-à-dire quand on a des classes de plus en plus chargées. Là, on a 32 000 élèves, par exemple, à la rentrée prochaine. On a 32 000 élèves en plus et on a 2 500 profs en moins. On a parmi les salaires les plus bas des pays équivalents en Europe, par exemple. Et on a un ministre qui nous avait dit, quand il est arrivé au gouvernement, « Je ne serai pas le ministre des réformes et des lois. » Il en est à sa troisième loi sur l'éducation. Les réformes s'empilent à toute vitesse. Et nous, quand on essaye de tirer la sonnette d'alarme, quand on dit « ça ne va pas, les classes à 35, ça ne va pas, 35 élèves, même si je sais qu'ailleurs dans le monde ça peut être beaucoup plus, ça va pas quand vous nous dites l'important c'est l'orientation des élèves et puis à la rentrée prochaine on n'a plus aucun moyen pour travailler ça dans les classes, ça va pas quand vous nous dites il faut individualiser les apprentissages et qu'on nous enlève toutes les heures où on peut travailler en petits groupes. Donc il y a une espèce de fracture entre le discours du gouvernement et nous ce qu'on vit dans la réalité, et donc on a l'impression d'être face à une situation de blocage. On n'est pas reconnu pour le travail qui est difficile, parce que si la société française en ce moment, c'est une société où bon nombre de nos élèves vivent dans la pauvreté. Ces élèves qui vivent dans la pauvreté, c'est difficile pour eux l'école. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à faire réussir tous nos élèves. Et on a l'impression que les réformes qu'on nous impose sont des réformes pour les riches. Et on verra ça peut-être avec la réforme du lycée. Donc il vaut mieux avoir une famille bourgeoise en centre-ville. On a une éducation de meilleure qualité que si on habite en zone rurale ou en banlieue. Et ça, c'est un vrai problème. Et on a beau le dire, on n'est pas entendu. D'où le pas de vague, les gilets rouges, et puis aussi tout notre travail syndical au quotidien pour essayer d'améliorer.
préféré. Chez vous, c'était les stylos
rouges. Excusez-moi, je me mélange.
Mais j'allais vous poser la question, vous, en tant qu'enseignant, tous les deux, comment vous avez vécu le mouvement des Gilets jaunes dans vos classes? Alors, Valérie Sipahi Mailani, vous êtes professeure de SVT, Sciences de la Vie et de la Terre.
Alors nous, on l'a vu, quand au mois de décembre, on a eu les trois quarts des lycées qui ont été bloqués contre la réforme des lycées. Certains de nos lycéens avaient des Gilets jaunes. En tant que prof, on peut comprendre, et d'ailleurs, on a les mêmes soucis. Un prof, après 10 ans de carrière en France, il ne gagne pas 2000 euros. Donc, on a des soucis pour boucler les fins de mois. On a beaucoup de nos collègues qui ont maintenant un petit job à côté de leur job de prof parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer.
Notamment ceux qui habitent en région parisienne où les loyers sont très élevés. Franck Collard, vous, en tant que président de l'Association des professeurs d'histoire géo, il se trouve que vous enseignez à l'université, mais vous occupez bien là des professeurs de lycée. Hein. Comment vous avez ressenti ce mouvement?
Le mouvement des Gilets jaunes.
Quelles ont été les répercussions dans le monde de l'éducation?
Dans le monde,
il y a eu bien sûr le mouvement lycéen, hein, la colère des lycéens, mais vous, en tant qu'enseignant?
Il y a eu aussi à l'université, une colère qui s'est exprimée alors à propos d'un problème qui n'était pas lié directement au bac, mais qui était lié à la hausse des droits d'inscription des étudiants étrangers.
Non européens. On a traité, bien sûr, dans notre émission.
Sur cette chaîne. Et puis, il y a eu également une sorte de rallumage de braise qui couvait depuis le printemps à propos de Parcoursup, avec des mobilisations dont il faut bien dire qu'elles n'ont pas été aussi massives que certains l'auraient espéré. Je veux dire ici, à la fin du premier semestre de l'année universitaire.
Parcoursup, c'est le fameux logiciel répartit les bacheliers en fonction de leurs vœux dans les universités, dans les formations d'enseignement supérieur après le bac.
Et qui a semé l'émoi et qui a abouti effectivement à un désordre qui n'a rien à envier à celui que provoquait l'ancien système d'orientation, qui a provoqué quelques frustrations, quelques étudiants sans affectation à l'université, pas si nombreux, mais enfin, c'était quand même des cas à traiter. Et puis surtout qui a débouché, et je crois qu'on est au cœur du sujet, sur des remédiations, comme disent les pédagogues, pour les étudiants qui avaient été acceptés à condition, les fameux « oui-si ». À qui on a proposé dans la majeure partie des universités des cataplasmes sur les béances de leur formation antérieure.
C'est-à-dire des lycéens, des bacheliers qui n'étaient pas satisfaits du choix qu'on leur proposait.
Pas satisfaits ou qui étaient considérés comme n'étant pas tout à fait au niveau pour suivre des études universitaires. Ce que moi je peux entendre parfaitement, parce qu'à force de corriger des copies de première année, on se rend compte qu'effectivement il y a des étudiants qui ont beaucoup de mal. Mais qui était censé être aidé par ces remédiations et à qui on propose en fait quelques heures d'enseignement par semaine qui n'arriveront pas évidemment à compenser et tout.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que rien n'est fait pour aider les élèves, rien n'est fait pour aider les lycéens, rien n'est fait pour les aider à se remettre au niveau lorsqu'ils arrivent à l'université. L'échec demeure massif en licence et que les exigences à l'égard de vous, enseignants, ne cesse d'augmenter, parce qu'il faut bien dire aussi qu'à l'échelle internationale, la France se classe mal dans son efficacité de son système éducatif.
Absolument. On a l'impression que, la charge qui pèse sur nous, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, s'alourdit, s'aggrave, et que la politique actuellement menée, qui n'est que la continuité d'années et d'années de politique du même genre. Il ne faut pas oublier que le ministre de l'Éducation nationale était le directeur de la DGESCO, la grande machine administrative, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc on a l'impression que les choses ne s'arrangent pas. Il y a eu un discours volontariste de réforme qui a pu faire illusion. Et puis il y a eu aussi le serment. Le ministre nous a reçus. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas construire d'usine à gaz supplémentaire. Il y en avait suffisamment comme ça, la réforme du collège de la ministre qui l'avait précédée. Il nous a parlé de l'école de la confiance, et ce que l'on voit, c'est que renaissent des usines à gaz, et ça n'est pas l'école de la confiance, c'est l'école de la défiance, hein, puisque les conseils que l'on a pu donner au ministre, à son cabinet, les conseils qu'on a pu donner aussi au Conseil supérieur des programmes, Madame Souadayada nous a reçus plusieurs fois, ne sont absolument pas apparus comme ayant eu des conséquences dans les programmes, dans les textes qui sont sortis au BO de l'éducation nationale.
Valérie Sipahi-Malani, vous disiez tout à l'heure, on se sent mal considéré aussi en tant qu'enseignant, notamment dans la société vis-à-vis des Français. Mais pourtant, il y a un sondage tout récent qui est sorti, le sondage Odoxa pour le Figaro et France Info. Les Français ont une opinion favorable des enseignants, reconnaissent que vous êtes mal payé, que vous êtes même peu soutenu par votre hiérarchie et que vous avez des publics de plus en plus difficiles.
Oui, mais pourtant il y a un malentendu parce que je pense que le fait que quand on soit en difficulté dans nos classes, on n'ait pas de soutien de la hiérarchie et parfois pas non plus de notre entourage proche, il traîne toujours ces idées reçues comme quoi les profs sont tout le temps en vacances, on ne fait que 18 ou 20 heures de cours. Le ministère reconnaît 42h53 minutes
avec le travail à la maison.
Avec le travail à la maison. Mais il y a, même si finalement la société française nous aime bien, elle nous aime bien tout en considérant qu'on travaille pas tant que ça.
Oui, je peux me permettre d'ajouter qu'elle nous aime bien de loin quand il s'agit concrètement des rapports qu'on peut avoir avec les élèves. Les parents montent quand même de plus en plus au créneau pour défendre leur chère tête blonde. Moi, j'ai vu, en préparant un petit peu cette émission ce matin, que par exemple la FCPE trouvait
la principale association de parents d'élèves trouvait parfait
le contrôle continu, en estimant que ça stresserait moins les élèves.
Pour la nouvelle réforme, pour le nouveau baccalauréat.
Que ça stresserait moins les élèves que ces épreuves terminales qui étaient en même temps un rite de passage. Bon, on peut en penser ce qu'on veut. Mais là, il y a une différence entre les enseignants qui sont un peu sceptiques et puis les parents qui trouvent.
Vous avez le sentiment que vous allez avoir encore plus de pression parce que le contrôle continu pour le baccalauréat, ça voudra dire qu'il faut que vous notiez correctement les élèves pour qu'ils puissent mieux s'orienter.
Ça veut dire que c'est comme si vous avez une équipe de football et les matchs amicaux qu'on fait pour préparer la compétition ou bien même les entraînements sont notés pour la compétition. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, enseigner, c'est un métier. Et parfois, on a l'impression que tout un chacun ayant fréquenté le système éducatif est un expert du système éducatif et pourrait prendre des cours en charge. Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, ça, c'est la grandeur aussi de notre système. Tous les petits Français sont passés par l'école et donc tout le monde a l'impression de la connaître.
Alors, en tout cas, la moitié des Français jugent favorablement la réforme du baccalauréat avec, entre autres, donc la fin des filières, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a aussi le contrôle continu dont vous parliez. Toujours selon ce sondage Odoxa pour le Figaro et France Info. Donc, ça veut dire que les Français ne sont pas vent debout, même s'ils sont inquiets là, à l'heure, dans les semaines qui viennent, des choix qui vont devoir être faits, des options, des enseignements de spécialité pour leurs enfants. Mais ils ne jugent pas défavorablement cette réforme.
Oui, mais moi, je pense qu'on en verra malheureusement. Nous, on anticipe déjà les difficultés. L'idée, c'est que, bon, déjà, c'est la réforme de la voie générale. Elle concerne un lycéen sur deux. Auparavant, on avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait trois menus, le menu sciences, le menu économie et le menu lettres. Et maintenant, imaginez, vous êtes dans un restaurant, dans un pays que vous ne connaissez pas, et puis on vous dit, voilà, on vous recommande trois menus, vous avez à choisir entre trois. Et on vous garantit que ces menus sont cohérents. Là, les élèves, ils vont pouvoir choisir des dizaines de menus différents. Et nous, les profs, on nous dit, il faut discuter avec les familles pour que les enfants choisissent des menus cohérents. Et ces menus doivent être cohérents avec l'entrée dans l'enseignement supérieur. Or, l'enseignement supérieur nous envoie des signaux parfois contradictoires. Le seul signal à peu près cohérent qu'on ait, c'est mathématiques ou pas mathématiques. Après ça, nous, il faut qu'on travaille avec les familles en classe de seconde, des élèves qui sont très jeunes, ils ont 15 ans, pour arriver à décider de ce qui va être cohérent pour eux, donc première difficulté. En plus, on est dans des lycées. Moi, dans mon lycée, par exemple, on a tant de profs de maths. On doit mettre en place de l'informatique. Ce sont les profs de maths qui font de l'informatique. Donc, il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on offre aux élèves des maths ou de l'informatique ? On ne va pas inventer les profs non plus. Hein. Donc aussi, on a un problème de ressources humaines. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ?
Des arbitrages de plus en plus compliqués. Et évidemment, là-dedans, ce sont les familles les mieux informées qui vont s'en tirer.
Exactement.
Le mieux. La fin des filières avec, à la place, une combinaison de choix possibles, avec votre métaphore des menus au restaurant, je crois qu'on a très très bien compris, hein, Valérie Sipahi-Malani, pour les lycées en classe de seconde. Sur 12 enseignements de spécialité, on en choisit 3 pour la classe de première, 2 pour la classe de terminale. Alors, est-ce que c'est un motif d'inquiétude ? On en parle avec vous et bien sûr, on va vous donner la parole. Sylvie Amissi, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes conseillère d'orientation, comme on dit plus facilement pour les élèves.
Psychologue de l'éducation nationale.
Exactement, présidente de l'association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. On en parle avec vous, ce sera juste après Pouki, Aya Nakamura.
Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. La pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Bla bla bla, la pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, 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 ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. Ces bails là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons bails, ça va grave, qu'est crack. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, oh game. Boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça. Bébé bébé du sale, allô allô allô. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé bébé du sale, allô allô allô. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé, tu veux ça. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
Nous parlons éducation chez 7 milliards de voisins sur RFI en direct. Comme chaque vendredi, avec nos invités, on parle de la fin des filières, de la réforme du baccalauréat, mais surtout de la fin des filières, puisque là, c'est dans les semaines qui viennent que les lycéens en France doivent choisir sur 12 enseignements de spécialité. Ils doivent choisir 3 enseignements pour la classe de première, donc c'est maintenant que ça se décide en classe de seconde, et 2 enseignements pour la classe de terminale ensuite. Alors, est-ce que c'est un motif d'inquiétude? On en discute avec vous, Valérie Sipahi-Malani, secrétaire générale adjointe du SNES, le principal syndicat d'enseignants du secondaire collège-lycée. Avec vous, Franck Collard, président de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Et avec vous, Sylvie Amici, présidente de l'Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. Donc, vous faites partie des conseillers d'orientation. Et en ce moment, c'est le moment crucial puisque, donc, je le disais, 12 enseignements de spécialité. On en choisit 3. Et vous nous disiez d'ailleurs pendant la chanson, Franck Collard, ça fait 120 combinaisons possibles.
Hein. En admettant 10 spécialités, même pas 12, en admettant 10 spécialités au choix.
Ouais, en admettant qu'il n'y ait pas le choix maximum dans le lycée, hein, parce que tous les lycées ne sont pas logés à la même enseigne. Ça veut dire concrètement, Sylvie Amici, vous en tant que conseillère d'orientation, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les questions des élèves, des lycéens lorsqu'ils viennent vous voir en ce moment?
Alors, ça dit concrètement, en fait j'étais ce matin, avant de vous rejoindre, avec une classe de seconde et leurs professeurs principaux. Ça dit concrètement que, comme vous disiez, il y a toute une opération de communication autour de cette réforme qui fait que plus de la moitié des Français sont plutôt positifs par rapport à cette réforme. Mais je dis bien, c'est une opération de communication.
Parce que vous-même, on a vendu le lycée à la carte.
Voilà. Vous répétez trois choix parmi 12. Ça paraît effectivement une grande liberté. Sauf que là, dans les classes, en tant qu'acteurs du système éducatif, les professeurs principaux, les chefs d'établissement, nous-mêmes, avec mes collègues psychologues de l'éducation nationale, nous sommes en train de dire aux élèves « Ah ben non !» ça ne va pas être possible, parce que ce n'est pas si simple, parce qu'il ne va pas y avoir 12 enseignements, mais ça va être plutôt, pour la moyenne, 7. À certains endroits, ça va être 5, à d'autres, ça va être 9. Ah, alors là, les élèves découvrent qu'il y a tout le discours qu'ils peuvent entendre au niveau médiatique. Il y a même des youtubeurs hein, qui, par rapport à ces réformes, participent à cette information. Les réseaux sociaux sont employés par le ministère. Donc, il y a une réalité où là, au sein du système scolaire, nous sommes tous là, avec mes collègues, pris dans quelque chose où on doit dire aux élèves et aux familles « Ah, mais attendez, c'est pas vraiment comme ça ». Donc, ça suscite à la fois ce qui suscite d'une part, beaucoup d'espérance, hein, parce que les enfants, les familles se disent « Ah, tout ce choix, cette liberté, enfin, on va faire ce qui nous plaît,
on est comme au supermarché,
on va composer, on va pouvoir, voilà ». Il y a une réalité que nous sommes, du coup, dans l'obligation aussi de dire, mais qui est assez violente, parce que, du coup, c'est aussi beaucoup de déception pour les enfants et les familles, parfois, qui ont imaginé que, vraiment, ce discours que vous avez répété, là, en présentant, hein, 3 choix parmi 12, n'est pas du tout la réalité.
En principe, je dis bien en principe, vous allez me dire si c'est la réalité, mais il y a 7 spécialités de base pour tous les lycées, histoire, géo, alors, en plus du tronc commun, hein, on est bien d'accord, oui. Hein, le tronc commun où il y a les matières, maths...
Non, il n'y a pas de maths dans le tronc commun. Dans c'est un des gros problèmes de la réforme. Dans le tronc commun, vous avez les langues vivantes, le sport, le français,
l'histoire, géo,
l'histoire, un enseignement scientifique.
Un enseignement scientifique qui peut être autre que mathématiques.
C'est un enseignement pluridisciplinaire où se cachent vaguement quelques éléments de mathématiques, mais ce sera pas des mathématiques, ça c'est clair.
Conclusion, même les profs de maths sont vent debout. Alors, voilà. Et donc, en dehors de ce tronc commun, il y a bien 7 spécialités de base. A priori, pour tous les lycées, histoire géo, géopolitique, sciences politiques, physique, chimie, maths, humanité, littérature, philo, SVT, c'est sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, est-ce que j'en oublie ?
Sciences de l'ingénieur,
donc
mais a priori, il y a déjà des établissements qui ont appris qu'ils n'avaient que 5 enseignements de spécialité. Voilà, c'est ça la réalité en ce moment.
Un grand lycée de Nancy.
De ce que, du coup, on doit porter comme élément à la fois qu'on ne défend pas, parce que c'est pas ça, quoi, c'est pas ça qu'on défend, mais qu'on est obligé de porter comme discours et comme réalité auprès des jeunes. Ce qui fait qu'effectivement, entre un discours très général de confiance, qui est presque un discours publicitaire de communication, actuellement, il y a beaucoup de déceptions, en fait, par rapport à ce qui... De finalement, de ce que cette réforme, pour les bacs généraux, parce qu'il y a toujours les bacs technologiques, il y a toujours la voie pro... Qui est vraiment est mis en face des demandes et des souhaits.
En fonction de quels critères les lycéens vont choisir leur spécialité ?
Alors ça, c'est évidemment une excellente question, parce qu'on parle d'école de la confiance, mais je dis plutôt de la défiance, de l'illusion. Les lycéens donc, vont être placés devant une double inégalité. On a déjà dit, mais il faut quand même marteler ça. Une inégalité territoriale, une inégalité sociale. Donc territoriale, on a bien compris qu'il y a certains lycées dans lesquels il y aurait peu de spécialités qui seraient proposées. Inégalité sociale... On a bien compris aussi que les familles initiées, par exemple les familles de professeurs, pourront conseiller les bonnes spécialités aux élèves. Et puis les autres seront laissés un petit peu à l'abandon, puisque en ce moment, le ministère prétend donner de l'information lors de stages proposés aux enseignants, des stages qui sont assez vides de contenu. Moi, j'en ai eu la confirmation il n'y a pas très, très, très longtemps. Et donc, les lycéens, qu'est-ce qui va les animer pour choisir leur spécialité ? Le goût pour la matière, mais il ne faut pas se faire non plus trop d'illusions, ils ont 15 ans. Il y aura la réputation du professeur, la gentillesse, la manière de noter. Et donc, là aussi, ça introduit dans l'exercice de nos métiers un biais qui est redoutable. Parce que imaginez que des spécialités un petit peu menacées veuillent quand même être fréquentées, ben, ça peut tout à fait conduire à une espèce de dumping pédagogique. Hein. Ça peut tout à fait.
C'est quoi le dumping pédagogique ?
Dumping pédagogique, c'est ce qui est pratiqué aussi à l'université. À partir du moment où vous mettez en concurrence des disciplines ou des établissements, ben, on estime que les élèves choisiront plutôt la discipline ou l'établissement, enfin la discipline surtout, réputé être noté d'une manière pas trop sévère par rapport à d'autres disciplines. Donc ça pose même des problèmes, à mon avis, déontologiques dans l'exercice du métier.
Est-ce que les profs pourront s'opposer à des choix d'élèves, Valérie Sipahi-Malani ?
En principe, non. En principe, on ne peut pas. Mais ce qu'il faut voir, là, c'est qu'on est dans
un élève nul en maths, il peut se composer un cursus très scientifique, par exemple, alors qu'il n'a pas le niveau ?
Bah c'est la difficulté qu'on a, parce que là, par exemple, un élève qui veut faire de la physique-chimie, les programmes ont changé, mais les programmes ne sont officiels que depuis avant-hier. Et donc ça, c'est une première difficulté qu'on a. La deuxième difficulté qu'on a, c'est que nos élèves, quand ils sont arrivés dans nos lycées en classe de seconde cette année, on n'avait pas encore les choix de spécialité qu'offraient les lycées, puisqu'on les connaît depuis 3 semaines. Donc ils sont arrivés dans leur lycée en pensant pouvoir faire une classe de première tranquille, et ils se retrouvent, pendant le premier trimestre, on leur a dit, voilà, il va falloir choisir des spécialités, on ne peut pas vous dire celles qu'on pourra vous offrir dans l'établissement. Donc tout le monde attendait. Maintenant, début janvier, on leur dit, voilà les spécialités qu'on ouvre, mais on ne connaît pas encore les programmes. Et depuis avant-hier, on regarde les programmes et on voit que, par exemple, le programme de physique-chimie par rapport à celui de cette année, c'est devenu un programme beaucoup plus mathématique. Donc, faire de la physique-chimie, spécialité physique-chimie, sans prendre la spécialité mathématique, c'est quasiment impossible pour la suite. Donc, des élèves qui avaient espéré peut-être faire physique-chimie, sciences économiques et sociales, et puis de l'anglais en littérature, en se disant, ça me laisse un peu le temps de réfléchir pour la classe de terminale, nous, on va lui dire, les profs, si tu fais de la physique-chimie, vaut mieux prendre les maths. Mais le programme de maths est monté d'une marche. Or, ces élèves qui sont en seconde font un programme de seconde qui est adapté, et encore, au programme de la réforme du collège. En collège, on a perdu des heures de maths. Donc déjà, ils ont eu du mal avec l'ancien programme de maths de seconde. Et le nouveau programme de maths de première est un programme beaucoup plus difficile que l'actuel. Donc là, on se retrouve avec des élèves pour lesquels les règles du jeu ont changé. Une fois qu'ils étaient au collège, ils ont subi la réforme. Maintenant, ils entrent au lycée, les règles du jeu changent aussi pendant leur cursus. On est pour une génération d'élèves pour lesquels ça va être extrêmement difficile.
Vous êtes en train de nous décrire une usine à gaz complète. Là.
On est en train, là, je vous dis, moi, nos angoisses de prof en lycée cette année, c'est mais comment est-ce qu'on va arriver à limiter les choses l'année prochaine? Parce que cerise sur le gâteau, on a parlé là du bac, on va devoir les évaluer en façon partielle, donc on va devoir les évaluer en contrôle continu pour le bac à partir de février de l'année prochaine. On ne connaît même pas les épreuves.
Ceux qui seront en première. Donc.
Voilà, mais on n'a pas encore la nature des épreuves. Donc on ne sait pas. Nous, on aurait besoin d'avoir un petit peu tout pour se figurer comment on va prendre les choses en main et conseiller nos élèves. Et là, on n'a rien.
J'allais vous poser la question, quels sont les points encore tout à fait flous, mais vous en avez cité tellement, je crois qu'on va arrêter l'inventaire à l'après-vert. Là.
Oui, mais peut-être si je peux me permettre d'ajouter un point concernant la temporalité de cette réforme. Il y a une précipitation caractérisée. Par exemple, la réforme de Parcoursup, elle aurait dû intervenir après la réforme du lycée pour que les élèves sachent un petit peu en quelle mesure le choix des spécialités allait ensuite préjuger de leur cursus universitaire. De la même manière, ce que dit ma collègue, je suis tout à fait d'accord avec elle, la découverte un petit peu au dernier moment des programmes, ça tourne totalement le dos au bon sens.
Mais politiquement, vous savez bien qu'un ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, connaît bien la maison, connaît bien ses dossiers et jouissait d'ailleurs d'une très forte cote de popularité en arrivant à ce ministère. Un ministre de l'Éducation nationale, il doit la réformer vite dans les 2 années après son arrivée. On sait bien qu'après, c'est compliqué, ça ne marche pas.
Ouais, mais là, il aurait pu faire une montée pédagogique. Il aurait pu réformer l'année prochaine la seconde, l'année d'après la première. Là, il réforme 2 niveaux d'un coup. C'est une habitude qu'ont pris nos ministres, finalement, de faire des réformes qui sont sur tous les niveaux en même temps, avec une rupture du contrat avec les élèves et leurs familles. Et ça, pour nous, c'est très difficile à gérer. Par exemple, à la réforme de l'entrée dans le supérieur. Les formations du supérieur nous ont dit, par exemple, prenons psychologie qui intéresse beaucoup les élèves de la filière littéraire. On nous a dit depuis l'année dernière...
Filière en tension, pour les facs de psychologie, archi saturée.
Tout à fait, et les élèves de la série littéraire ne sont pas les premiers à y réussir, c'est certain. Mais bon, ils ont commencé en première à se préparer à cette filière. Depuis l'année dernière, on sait que si on ne fait pas de maths en première, eh bien, on n'y a pas accès. Donc il y a des élèves qui ne le savaient pas, qui se retrouvent barrés, parce que les termes du contrat ont changé pendant leur scolarité. Et là, nous, on trouve que ce n'est vraiment pas raisonnable. On ne peut pas dire à des élèves, vous rentrez dans le système, mais on ne peut pas vous dire ce qui va se passer, vu que les règles vont changer au fur et à mesure que vous avancez dans la scolarité.
La vraie question qui se pose pour les familles et pour vous, est-ce que les choix de spécialité vont être utilisés par les universités pour sélectionner les étudiants? Et comment? Quels vont être les choix gagnants? Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Votre question, elle est légitime, mais vous voyez bien qu'on se la pose nous-mêmes en tant que professionnels, tout autant que le public lambda. Que monsieur et madame qui a son enfant en seconde. Ce qui est très troublant là, en plus, c'est que par rapport à cet accompagnement qu'on pourrait souhaiter, et qui, moi je pense, existait dans pas mal d'établissements, de l'accompagnement au projet, à l'orientation, comme le disait la collègue Valérie, là il y a rupture de contrat en plus. C'est-à-dire que là ce matin j'étais face à des élèves de seconde qui en troisième ont été suivis par leurs professeurs principaux, qui ont bénéficié de séances, d'interventions, etc., qui ont construit un projet, qui se sont projetés avec les éléments qu'ils avaient sur ce qu'était le lycée, etc. Et là, d'un seul coup, on leur dit le contrat, c'est plus le même. Alors, on fait ce qu'on peut dans l'établissement, ils comprennent très bien ce que sont les enseignements de spécialité, ils comprennent le contenu de ce qu'on en sait.
À l'âge qu'ils ont, ils sont très adaptables, hein, néanmoins.
Alors,
est-ce que vous les sentez inquiets? Vous les sentez dans quel état d'esprit en seconde?
Inquiet, non, mais de l'anxiété, oui, ce qui est autre chose. De l'anxiété qui pourrait mener très bien à se désengager de sa scolarité, c'est-à-dire je vois pas où je vais, ben, du coup je ralentis et voilà. Soit je rentre dans des mécanismes d'influence, c'est-à-dire que du coup je vais écouter celui qui paraît le mieux savoir pour moi et qui joue un peu les diseurs ou les diseuses de bonne aventure. Mais comme on le disait, en même temps ils avaient envie d'y croire à cette chose qui était proposée, qui était vous choisissez ce que vous voulez. Ce matin j'avais un jeune qui me disait, un jeune qui voilà, il aime tout ce qui est culture générale, ouverture, etc. Donc lui il se voyait bien composer SVT.
Sciences de la vie et
de la terre, sciences de l'ingénieur.
C'est pas culture générale, c'est comme scientifique, sciences de la vie et de la terre.
Mais il y a pas de. C'est quand même littéraire, il y a quand même une ouverture, quoi. Voilà, il était sciences de l'ingénieur parce qu'il aime la connaissance du monde. Ouais. Donc c'est comme ça que je dis culturel, c'est dans le sens aussi connaissance du monde, mais aussi du monde technique. Et il voulait prendre humanité. D'accord. Avec. Sauf qu'on va.
Vachement intéressant comme combinaison de l'humanité, du scientifique, technologique.
Oui, on peut se dire oui. Sauf que, est-ce que, oui, on vient juste d'avoir les programmes, est-ce qu'il est possible de faire sciences de l'ingénieur sans avoir maths? Voilà, on va revenir à des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des combinaisons qui, même sur le papier, même par rapport à un projet, peuvent paraître intéressantes, mais concrètement, en tant que savoir, en tant que discipline
cohérent,
et en tant que connaissance.
Pas cohérent pour aller en classe prépa, pour préparer des écoles d'ingénieurs, pas cohérent pour aller dans des filières d'ingénierie à l'université
Je pense, ça pourrait, mais on parle quand même, mais on parle de connaissances aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avancer en sciences de l'ingénieur sans avoir certaines connaissances en maths? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des assemblages de matières qui ne sont pas que des matières, qui sont des connaissances qui s'articulent entre elles. Et
donc,
j'en arrive à mes limites.
On donne trop de liberté au lycée.
Me faites pas dire lycéen. Trop. Non, je dirais pas trop.
Mais ça veut dire que, en fait, dans ces 120 combinaisons possibles qui sont tout à fait infinies...
Il y en a combien pour de vraies qui sont possibles?
Exactement.
Eh ben, c'est
quand
la question qu'on est en train de se poser.
Quand on choisit sciences de l'ingénieur, forcément, il faut choisir les maths avec, sinon ça n'a pas de sens. C'est ce que je comprends dans ce que vous dites.
N'en sais rien. En tout cas, de ma place, je n'en sais rien. Il faudrait interroger les professeurs de maths et les professeurs de sciences de l'ingénieur. Oui. Mais cela, est-ce que ça a été fait?
Il y a eu des consultations. Oui. Nous, on a donné notre avis. On a dit ce programme, on devrait avoir des mathématiques dans le tronc commun pour tout le monde parce qu'on en a besoin dans plusieurs disciplines de spécialité. Et on nous a dit non, on fait une spécialité mathématique. Et cette spécialité mathématique, elle est conçue pour les plus scientifiques. Même les élèves à profil histoire-géo ou à profil économique, ils vont avoir du mal avec ces mathématiques-là. Or, pour faire de l'économie et de la sociologie, il faut des mathématiques.
Alors, avant qu'un bac S, le lycéen ne savait pas ce qu'il voulait faire plus tard et qu'il avait des bonnes moyennes partout, il passait en S.
On pouvait tout faire.
C'était la voie royale. On pouvait effectivement absolument tout faire. Aujourd'hui, est-ce que c'est la fin de la hiérarchie des matières? On parle de cohérence là, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que c'est la fin de la hiérarchie des matières? Est-ce que c'est la fin de la toute-puissance des mathématiques ou pas?
Alors. C'est ce que vous dites, qui est une représentation globale. Déjà, ce n'était pas vrai, parce que ce qui était fonction de pouvoir tout faire avec un bac S ou pas, c'était d'avoir des résultats qui étaient bons, qui permettaient de se positionner par rapport aux différentes disciplines. Et il y avait aussi des élèves qui avaient d'autres types de dossiers, qui pouvaient faire des filières tout aussi intéressantes.
Non, mais vous aviez choisi la filière L, et tout d'un coup, en terminale, vous vous réveillez, vous avez envie d'aller en médecine, c'est mort quand même, statistiquement.
Alors,
il y a
des passerelles qui existent, il y avait des mises à niveau qui existaient. En tout cas, je serais moins catégorique. Mon travail, c'est de savoir que c'est pas si simple non plus, et qu'il y avait une réalité qui était diverse.
À l'inverse, avec un bac S, on pouvait partir vers des classes préparatoires au concours littéraire.
Absolument.
Oui. Donc ça pouvait sembler pas très logique.
Mais pour revenir sur les maths, là, vous voyez bien que l'exemple que j'ai donné Il se concentre pas que sur les maths. C'est est-ce que, par exemple, l'élève qui fait sciences de l'ingénieur pourra vraiment avoir aussi un enseignement de spécialité humanité ? Voilà. C'est vraiment, j'interroge, j'essaye d'interroger toutes ces nouvelles combinaisons et ce nouvel univers qui est proposé aux jeunes
donc,
et aux familles.
A priori, quand même, cette idée de départ de donner plus de liberté aux lycéens grâce à des combinaisons de choix, certes très larges, mais ça partait quand même d'une idée de composer des cursus davantage adaptés à la personnalité, aux aspirations des jeunes,
ça
et
va
des
dans
cursus
sens,
plus intéressants aussi.
Ça va dans le sens de l'individualisation, oui, qui est probablement le sens...
De la société de consommation,
de la société, voilà, de la société actuelle. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est probablement à l'heure et que ça ne va pas aider les élèves les plus fragiles qui auront le plus de mal à choisir parce qu'après, il faut renoncer en terminale. Et l'autre chose, c'est que si, effectivement, on a une prééminence des mathématiques, c'est aussi lié à la manière dont le supérieur recrute. Parce que si les prépas littéraires disaient « moi, je recrute que des élèves ayant un profil littéraire et je ne prends pas d'élèves ayant un profil mathématique », les choses seraient probablement différentes. Donc, il y a aussi une responsabilité de l'aval que nous on ne maîtrise pas forcément dans les établissements du second degré.
Parlons des inégalités entre les lycées et entre les territoires. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ?
Alors là, nous, les remontées qu'on a sont assez catastrophiques. Là, moi, je regardais, par exemple, en Bretagne, si vous êtes à Rennes, vous avez en moyenne 10 spécialités dans votre lycée. Si vous êtes à Saint-Brieuc, quelques centaines de kilomètres de là, au bord de la mer, une côte magnifique, mais vous avez 8 spécialités maximum et souvent moins. Si vous êtes en
Au lieu des 12, au lieu des théoriquement, qui pourraient être proposées.
Si vous êtes en Martinique, soit vous habitez à côté de Fort-de-France et vous aurez toutes les spécialités, soit vous êtes dans un des petits lycées, parce que en Martinique, plus qu'ailleurs, on a des problèmes de transport pour les élèves. Là, vous avez parfois seulement 3 ou 4 spécialités. Alors, on nous dit, c'est pas grave, on va mutualiser, les élèves iront dans le lycée d'à côté pour une spécialité qui ne figure pas dans leur lycée. Mais ça ne on sait bien que ça ne fonctionne pas parce qu'on a des problèmes d'emploi du temps, on a des problèmes de transport. Ils n'ont quand même que 16 ou 17 ans. Et puis, dans les lycées ruraux où, justement, il y a peu de spécialités, c'est souvent ceux-là où c'est le plus difficile de gérer les transports vers les autres lycées.
Vous nous dites ça alors que le mouvement des Gilets jaunes a permis de cerner une France périurbaine, rurale, où tout se fait en voiture, où les possibilités pour les enfants et pour les jeunes d'ailleurs sont plus réduites que dans les grandes villes. Cette France des ronds-points, elle va se retrouver plus que jamais visible dans le défaut de choix, dans le manque de choix possible dans ces spécialités.
En tout cas, enfin, ça confortera effectivement les Gilets jaunes dans l'idée que certains sont des citoyens plus égaux que d'autres. C'est toujours le même problème. Concernant le pouvoir actuel, il faudrait le prendre au mot, mais on l'a déjà fait, puisque un grand débat est lancé. Il faudrait que ce grand débat ne tourne pas comme l'absolu de concertation qui a eu lieu pour la réforme du lycée, où on a été souvent reçu et reçu avec considération, mais simplement à peu près jamais écouté, entendu. Parce qu'il y a un élément supplémentaire de complexité de ce qui est une nouvelle usine à gaz, contrairement à ce que souhaitait le ministre, c'est que certaines spécialités sont des spécialités multidisciplinaires. Moi, celle qui concerne les historiens géographes, que je défends un peu corporativement, c'est une spécialité qui est censée aussi être assurée. Alors, il y a une formule que j'aime beaucoup, le cas échéant, qui nous a mis du baume au cœur, le cas échéant par des professeurs de sciences économiques et sociales, sur un programme en première qui est un programme largement historien et géographique. Et les collègues de sciences économiques et sociales, d'ailleurs, se demandent comment ils pourraient y intervenir en fonction de leurs compétences. Eux-mêmes ont d'ailleurs une spécialité de plein exercice. On l'a dit au ministre, on l'a dit à Mme Ayada, qu'à l'intérieur de l'usine à gaz, ça serait une petite usine à gaz. Imaginez comment procéder à l'évaluation de cette spécialité partagée entre deux disciplines. Comment procéder au choix des sujets, hein, alors qu'on a des cultures disciplinaires qui ne sont pas les mêmes. On a dit, mais au moins qu'il y ait un arbitrage national accordant la moitié, ou plutôt les trois quarts de l'horaire aux historiens géographes, et le dernier quart aux sciences économiques et sociales. Il nous a été répondu, non, ce sera réglé par le principe de subsidiarité, c'est-à-dire dans les établissements, dans les lycées, c'est le proviseur qui décidera en fonction des bataillons de professeurs qu'il pourra mobiliser.
Ce que vous décrivez, c'est aussi la foire d'empoigne, oui, et la compétition entre les matières.
Absolument. Oui.
Chacun défend sa discipline.
On pourrait croire que c'est fait pour ça. Et alors, ça a été enrobé quand même sous un emballage extrêmement séduisant et qui a d'ailleurs séduit certaines associations disciplinaires, je ne donnerai pas de nom, en disant, ah voilà, on va reconstituer une formation de sciences sociales. Oui, les sciences sociales, c'est très intéressant à l'université. Là, on a affaire à des lycéens qui ont besoin de repères disciplinaires qui soient bien identifiés, identifiés. Alors, cette spécialité qui va mélanger les sciences économiques et sociales et l'histoire-géographie, c'est une spécialité que le président de la commission de réforme, Pierre Mathiot, qui était directeur de Sciences Po Lille, a voulu imposer parce que c'est un esprit Sciences Po. C'est pas tout à fait nouveau, hein. L'esprit Sciences Po soufflait déjà dans les programmes, y compris de 2010. Hein, et il ne faut jamais oublier, parfois d'ailleurs on le dit au ministre, que il était aux manettes à ce moment-là, et donc moi je vois une continuité tout à fait effrayante dans la manière dont l'éducation nationale est réformée depuis 20, 30 ans.
Et pas adaptée au public des lycéens actuels ? Vous diriez ça, Sylvie Amici ?
Alors, vous partiez des inégalités. Moi je pense que c'est sous couvert de quelque chose de très intéressant, il y a un accroissement sûrement significatif des inégalités qui va se faire, mais qui ne sera plus visible, puisque même statistiquement, on ne pourra plus faire de suivi de ce que les élèves obtiennent selon la filière de bac, par exemple. Vous voyez, même les suivis, puisque quelque part, même le thermomètre des inégalités va être cassé par la complexité des
options et des choix possibles.
Autre chose, du coup, que j'interroge, quand vous me dites, est-ce que par rapport aux lycéens, c'est il y a d'autres choses, d'autres conséquences qui n'ont pas été mesurées. À l'adolescence, on sait que le groupe de pairs, le fait d'appartenir à un groupe est important. Cette structuration de l'enseignement par enseignement de spécialité va faire que les classes vont être complètement déstructurées. Les adolescents ne seront plus quasiment la moitié que peu de temps en groupe classe. Ça va avoir des conséquences sur les ambiances de classe. Il va même arriver, le rôle du professeur principal, je le rappelle, est important, qu'avec ce fonctionnement, les élèves peuvent et un professeur principal de référence qu'ils voient dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a plein de conséquences de construction, même en emploi du temps, qui sont, à mon avis, pour des adolescents en plus un peu fragiles par rapport à leur scolarité ou qui n'ont pas tous les codes, très très déstructurants.
Un mot de conclusion, Valérie Sipahi-Malani, on arrive au terme de notre discussion.
Sur la réforme du lycée, nous ce qu'on demande c'est un moratoire. On dit que c'est pas prêt, c'est le bazar partout, personne n'y comprend rien. Il y a des choses qui ont été décidées trop vite, qui ne vont pas convenir ni aux élèves ni aux enseignants. Or c'est nous les enseignants qui portons les réformes sur le terrain. On ne peut pas faire contre nous. Donc il faut prendre le temps de réfléchir pour faire mieux.
Merci en tout cas à tous les trois, Franck Collard de l'Association des profs d'histoire-géographie, Sylvie Amici de l'Association des psychologues de l'éducation nationale, et merci à vous Valérie Sipahi-Malani du SNES, le principal syndicat d'enseignants du secondaire, collège, lycée. Dans quelques instants, on revient dans l'univers des tout-petits avec la chronique de la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Town to the engine light flick as I throw around sounds trying to satisfy the itch. Got the southern sound, walk with a talk with a limp. I don't go above ground cause I know they would evict. I don't wear crown cause my rule too strict. Another man down so I move to the six. Just a year passed, I would never leave a zip. Man, I feel so much older that I swear that I forget. Now you know I let it get all their attention, but you know I let it say get out my business. Did a feature and got right up off the benches. All my life I've been a leader, but just not in this dimension. If you looking for a key block and keep you in suspension. Striding on my way to freedom and I haven't made it inches. Landed on my feet and went to mix it with my kindred. Trying to get relief, you know I'm not the one that's lending. Nah, you plead. I got a lot of feelings, won't catch me politicking. No time to clock is ticking, I still ain't got my ticket. Nah, you plead. Come from where I was risen, can't make no honest living. I made a modest killing. Do what was not appealing. I have little reason to love my fellow man. Love when I'm down and love when I drown. Love when I'm down, love when I drown. Love when I'm down, love when I drown. The way the man has dreamed of ever since. Underneath the city with my pockets on imp. No, you never hit me, give you props for the attempt. I don't need a lot to cut a tie, so don't tempt. All my ice is inside, I forgot to change the temp. Wary of the simps, been ready from the rip. Travel light, got baggage, packed heavy for the trip. Gotta face the sickness, you too scared to bear the witness. Couple pains for the fitness, ask me how I beat the litmus. Now I know you only trying to make a difference, but that don't mean that I'm trying to make it with ya. Always worried about the time that I'm spending. Only time I spend is trying to figure how to bend it. I'm just trying to figure how to mix it like a chemist. Get your mind straight, help you get your life splendid. Know it's guaranteed to never go how you intended. Love me when I'm down, but lately I've been feeling lifted. C'est Marlo chez 7 milliards de voisins sur RFI. Tout de suite, nous donnons la parole, comme chaque vendredi, à la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau.
On on est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
À retrouver bien sûr chez 7 milliards sur RFI le vendredi. Et puis on vous retrouve aussi en podcast pour écouter toutes vos chroniques sur le site rfi.fr. Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre. Autant dire que c'est un autre regard aussi sur la façon de s'occuper des enfants et des bébés. Aujourd'hui, comment on se sépare de nos bébés? Pour la journée ou pour plus longtemps, évidemment. Est-ce qu'il y a une bonne manière, finalement, de dire au revoir voir à son enfant?
Ah oui, alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée parce que la manière dont on sépare des bébés dépend vraiment de la conception qu'on a de comment on crée des liens avec les bébés, comment on crée des interactions. Car pour se séparer de nos bébés, il faut d'abord se réunir avec eux. Est-ce que le bébé qui naît est une personne à part entière qui peut être rapidement autonome? C'est ce que nous, on pense chez nous et on les confie très tôt à une crèche, à une garderie. Ou au contraire, est-ce qu'un bébé qui vient du monde invisible, du monde des ancêtres et qu'il faut humaniser, est-ce que c'est un bébé donc qui vient de ce monde-là et avec lequel il faut créer des liens? Et quand il sera prêt, quand il sera vraiment un humain, on dit quand il sera mûr, il pourra se séparer de nous tout seul. Donc il y a deux conceptions pour le faire et de là découle la manière dont on sépare des bébés. Nous, on considère par exemple qu'il faut préparer les bébés aux séparations. Il faut leur parler.
Leur expliquer.
Voilà, il faut leur expliquer. On dit maman va partir, elle reviendra. Faut les aider à accepter notre départ et leur permettre d'anticiper notre retour. On les regarde, on leur parle de cela, on leur raconte et on s'en va en ayant préparé la séparation. Mais au contraire, si on pense que le bébé a besoin de nous et qu'il doit rester agrippé à nous, alors on ne va pas chercher à anticiper cette séparation, on va simplement essayer de rendre la séparation moins difficile. Donc on va parfois dissimuler notre départ. Par exemple, on distrait l'enfant et pendant ce temps-là, la mère part. Et quand l'enfant se rend compte que la mère est partie, on lui dira qu'elle est sortie quelques instants et qu'elle va revenir. On va lui mentir pour ne pas lui faire de la peine en fait. Et en aucun cas, on va chercher à anticiper le départ et les retrouvailles.
Ça veut dire que dans certaines cultures, on mise finalement sur le fait que le bébé n'a pas vraiment le même sens du temps qui s'écoule, alors que par exemple dans des pays européens ou aux États-Unis on se dit non, il faut absolument que le bébé comprenne tout, il faut tout lui expliquer comme une vraie personne. Mais alors finalement, qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants?
Ça commence déjà par les parents, parce qu'en réalité, je crois qu'on fait en fonction de nos manières à nous de penser. Mais pour les enfants, en tous les cas, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de panacée. La seule règle, c'est que les séparations doivent se faire sans violence, ni pour les bébés, ni pour les mères, ni pour le groupe d'ailleurs. Mais franchement, il n'y a pas une seule manière de faire. Si parfois, il faut inventer des divertissements pour consoler les enfants, attirer leur attention sur autre chose pour que le départ soit moins violent, faisons-le c'est notre habitude.
C'est ça, c'est une façon finalement de rendre le départ plus léger, d'une certaine manière.
Exactement, c'est une...
Moins
solennel, et il n'y a pas besoin de faire de théorie.
Merci Marie-Rose Moreau. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, votre chronique est à retrouver chez 7 milliards le vendredi, et puis sur le site rfi.fr. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions ou magazine, et puis sur le site rfi.fr également, ou tout simplement vous tapez 7 milliards de voisins sur un moteur de recherche quel qu'il soit et vous tomberez sur notre page. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Lundi, 7 milliards de voisins, nous donnerons la parole à des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. Tiens, on en débattra aussi. Pourquoi sont-elles si peu nombreuses, quels que soient les pays? Quels sont les freins psychiques, mais aussi accès au crédit? Et comment elles s'organisent pour s'entraider, partager des problèmes communs? Mesdames, si vous êtes une entrepreneuse, c'est le moment de témoigner de vos difficultés, de vos succès aussi. Faites-en profiter les voisines, car vous pouvez être un modèle inspirant. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À lundi, les voisins et les voisines. Très bonne fin de semaine sur RFI.